quand t'es au 160e, que ça fait 30 heures que tu cours, que t'es dans la nuit et que t'en as ras-le-bol, c'est pas le plaisir qui te fait terminer la course. Hein. Là, le plaisir, tu l'as pas à un moment donné. Souffrir pour souffrir, non. Donc il faut quelque chose de plus grand. Et c'est dans ce quelque chose de plus grand que tu vas trouver les ressources pour terminer. Je veux dire, j'arrive à terminer un ultra dans le plus simple appareil. voilà, moi, c'est ça qui me fait vibrer.
Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Mon invité de la semaine, Nicolas Angermuller, est un adepte du retour à l'essentiel, que ce soit dans la construction de sa maison, la création de son potager en permaculture ou encore le choix de son activité professionnelle puisqu'il est aujourd'hui coach bien-être. Cette conviction qu'il est essentiel de s'écouter l'a naturellement amené à une pratique minimaliste de la course à pied. Et c'est en 2019 qu'il entame sa transition vers la course en sandales. On échange bien évidemment sur la manière dont il s'y est pris, les croyances autour de cette approche qui, par méconnaissance sans doute, ne fait toujours pas l'unanimité. Et Nicolas nous explique en détail les bénéfices qu'il y trouve. Mais on parle aussi et surtout de son accomplissement récent, être devenu finisher en sandales, d'un ultra trail de 200 km, l'Infernal Trail des Vosges. Merci Nicolas, excellente écoute à vous les Frappés. Première question, comment vont tes pieds ?
Mes pieds vont très bien. J'ai eu un tout petit peu peur le lendemain parce que j'avais des irritations sur les orteils, sur les pliures des orteils. Mais sinon, zéro bobo. Les pieds un peu gonflés après la course parce que j'ai quand même couru 200 bornes quoi. Mais non, franchement, les pieds impeccables, autant que les jambes, tout parfait. De toute façon, je suis sur mon nuage depuis une semaine du coup. tout va pour le mieux.
Tu l'expliques comment le fait que tout aille bien au niveau musculaire, au niveau des pieds, parce que je t'avoue quand j'ai vu tes stories, etc. Je pense que quand on découvre ce que t'as fait. Sans être particulièrement au fait de la course en sandales ou de la course minimaliste en tout cas, on peut se dire mais enfin il va se fracasser les pieds, musculairement ça va être un carnage et au final absolument pas. Tu me disais avant qu'on commence là que c'était la course où dont tu as récupéré le plus facilement. Tu penses que enfin il y a quoi derrière tout ça d'après toi? Tu l'expliques comment?
Alors je l'explique par le fait. Alors déjà l'Infernal, c'est. Je pensais que c'était une course moins exigeante que ce que j'ai pu faire dans les Alpes, parce que dans les Alpes il y a beaucoup de cailloux et tout ça. Mais en fait l'Infernal, il y a beaucoup de petits chemins avec plein de petits cailloux, plein de petites racines. Donc en fait il y a largement moyen de s'exploser les pieds si on fait pas attention. Mais en fait le fait de courir en sandales, en fait il y a quelque chose d'inconscient derrière aussi où le corps il sait qu'il a pas de protection. Du coup t'es naturellement plus attentif à tout ce que tu fais. Moi, ma pose de pied, elle était délicate à chaque fois, surtout en descente, parce qu'en montée, au final, je vais aussi vite en sandales qu'en chaussures, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ouais, c'est les descentes où là, clairement, je vais beaucoup plus lentement qu'avant, quand je courais en chaussures ou les autres coureurs, je le voyais d'ailleurs, ils me passaient comme des avions. Mais du coup, je faisais vachement attention à toute ma pose des pieds et j'avais une approche très délicate, très aérienne, très légère. Et même sur 200 km, on me voit à la fin. Ok, je fais des tout petits pas, j'ai une foulée un peu chelou, quoi. Mais globalement, c'est ultra léger. Donc en fait, je ne vais pas dire que je ne mobilise pas mes muscles, mais ce n'est pas des gros impacts qui viennent où il faut que je compense à chaque fois musculairement. Voilà, là, c'est tout doux, ça se fait tout en fluidité, en fait. Et c'est le côté en fait, contre-intuitif. On pense sandales, je vais beaucoup plus me flinguer, ça va être beaucoup plus dur pour, musculairement au niveau des articulations et tout ça. Mais en fait, vu que je suis beaucoup plus léger, et ben voilà, en fait, c'est ça qui fait ce côté fluide, ce côté plus naturel. En fait, tu reviens à une course naturelle et du coup, je mobilise beaucoup moins tout ce qui est musculaire et surtout toutes les articulations, genoux et hanches, ou en général, après les trails, en tout cas les trails que je faisais avant, voilà, ça grinçait pendant, pendant quelques jours après. Ouais.
Excellent. J'avais eu un échange avec un invité, Marco Pao, qui est préparateur mental, et qui partageait un chiffre intéressant. Enfin, c'était pas vraiment un chiffre, mais c'était un... Attends, je vais le refaire. J'avais eu un échange avec un invité précédemment, Marco Pao, qui est préparateur mental et coach, qui partageait une info intéressante, qui est qu'en fait, sur le long... le principal facteur de fatigue, c'est pas nécessairement la fatigue musculaire, mais plus la fatigue nerveuse. Mmh. Et notamment au pied, c'est les chocs, t'as le pied qui gonfle, y a pas de place dans la chaussure, donc au bout d'un moment, ça fait super mal, tu te prends un caillou, t'as l'impression qu'on t'a planté un couteau. Mmh. Est-ce que tu penses que, du coup, le fait d'avoir les sandales, donc finalement, le pied est libre, il peut gonfler comme il veut, ça, il est, entre guillemets, au frais, il est pas contraint par le chausson. Est-ce que tu penses que ça joue aussi sur ta fraîcheur relative au bout de 200 km?
Ouais, carrément. Bah, effectivement, le fait d'avoir le pied à l'air libre, de toute façon, je le vois après la course, le pied, il s'est vraiment affalé. Donc, même, j'ai dû desserrer sandales. Ouais, parce que je me sentais comme un saucisson, quoi. Ouais, c'était assez impressionnant. Enfin, de mon point de vue, c'était impressionnant. Je pense que la plupart des gens n'ont même pas remarqué la différence. Mais ouais, le fait d'avoir le pied à l'air libre, effectivement, le pied, il s'affale beaucoup plus. Il est pas contraint dans un chausson. Il n'y a pas l'humidité aussi qui s'installe. Du coup, j'ai pas d'ampoule. J'ai zéro ampoule au bout de 200 bornes. J'ai pas de friction au niveau des lanières. Et oui, bien sûr, en fait, ce côté pied à l'air libre. Et encore une fois, quand je dis fluidité, c'est que je suis aussi sur l'avant du pied. Donc, j'ai pas l'impact au talon. Ouais, voilà, c'est encore un plus. Ok, il y a le côté fluidité, ouais, pour les muscles, effectivement, au niveau des articulations, mais c'est vrai que nerveusement, bah, c'est un peu lié, mais du coup, je suis pas... Ouais, encore une fois, le mot, c'est fluidité, quoi. C'est tout, ouais, se fait naturellement. Et puis, en fait, je le remarque tout de suite dès que j'ai une... Parce qu'on va pas dire, sur 200 km, j'ai pas une foulée impeccable tout le long. Hein. Mais dès que je sentais que j'avais une attaque un peu plus talon, une attaque où voilà, il y avait plus, j'avais pas l'amorti nécessaire, direct, tu le sens tout de suite en sandale. Donc, t'as tout de suite le rappel à l'ordre pour dire attention, limite ralentis un peu, et pour retrouver cette fluidité, quoi. Voilà. Puis bah, aussi beaucoup plus en sandale, tu révises beaucoup mieux tes trajectoires. Tu vas pas tout droit à travers cailloux, quoi. Là, j'essaie de voir ben, l'endroit où il y aura moins possibilité de taper quelque chose. Du coup, est-ce que je vais prendre un peu plus douce, limite à faire un peu en zigzag, me voir s'il y a un petit peu d'air pour justement relâcher un peu de tension. Du coup, ouais, il y a tout cet aspect-là en plus, quoi, qui vient. Mais franchement, ça, j'ai pas l'impression de l'avoir vraiment travaillé. C'est venu au fur et à mesure. Et ça vient naturellement parce que le corps, il sent qu'il y a quelque chose, t'es à l'air libre, t'es un peu nu, quoi. Bah, t'es pieds nus. Du coup, voilà, donc faut faire gaffe et ton cerveau, il est attentif à ça, même voilà, de façon inconsciente, vraiment.
C'est vrai que alors, j'ai pas fait de course en sandales, mais depuis que j'ai fait l'interview donc, de Nico, Nicolas Cassier, je mettrai le lien, et de Olivier Maria, ouais. Low Carb Frenchie.
C'est ça, ouais.
Voilà, je vais y arriver. qui tous les deux ont aussi une approche minimaliste de la course à pied, donc ils courent en sandales. Bah, du coup, j'ai eu l'occasion d'en porter. Et c'est vrai que juste déjà sur des treks, rando, etc., effectivement, je trouve, enfin, je suis assez d'accord avec toi, tu as vraiment cette notion, tu es forcément tout de suite plus vigilant. Tu vois, tu peux pas, si tu te retrouves en descente, il y a un peu des pierres, bah, en fait, tu regardes pas, tu lèves pas les yeux, tu fais gaffe parce que, bah, je pense que, voilà, ton cerveau intègre qu'en fait, si tu manges une pierre, comme tu disais, il n'y a pas de protection, donc ça peut être un peu délicat. Mais l'avantage, c'est que, oui, tu es beaucoup plus conscient de ta foulée. En fait, c'est une drôle d'expérience parce qu'en chaussures, pas du tout, en fait. Tu as de l'amorti, tu sens rien, entre guillemets. Là, c'est une foulée consciente.
C'est ça. Ouais, tout à fait. Alors après, je dis ça vient inconsciemment, mais bon, après Nicolas, et il en avait déjà pas mal parlé dans le podcast, il me semble, mais ça vient pas tout seul. Hein, ça vient progressivement. Ouais. On se lance pas d'un coup à 200 km en sandales. Moi, j'étais un gros coureur déjà avant, et quand je me suis mis à courir en sandales, j'ai repris à zéro quasiment. Genre mes premiers footings, c'était 500 mètres, après je suis passé à 1 km, puis 2 km. Après, vu que je courais tous les jours, ben, ma progression elle allait assez vite par rapport à ce que j'ai pu lire sur des transitions comme ça. Mais c'est dire que j'ai vraiment repris à zéro pour réhabituer justement le corps à créer ces automatismes et ce côté inconscient que j'ai développé. Voilà, ne pas sauter tout de suite, même un 10 km, c'est trop d'un coup, quoi. Même si c'est sur route, qu'il n'y a pas de difficulté par rapport à de la montagne. Même là, il faut créer des automatismes et ça ne vient pas tout seul, quoi.
Alors justement, c'est quoi ton histoire avec la course à pied?
Alors moi, j'ai démarré la course à pied alors très jeune, j'étais au collège, donc je m'étais inscrit à un club d'athlètes, donc je faisais beaucoup de cross, de courses sur piste. Et déjà, j'étais attiré par les trucs un peu chelous, genre le 3000 mètres steeple. Voilà. Pour des gens qui font de la piste, c'est un peu... En tout cas, c'est l'idée que je m'en faisais, mais du demi-fond, c'était l'épreuve un peu la plus compliquée, quoi. Donc voilà, donc plutôt un coureur de route aller jusqu'à 10 km et plutôt piste. Après, il y a eu les études qui sont passées où là, bon, j'ai un peu laissé la course de côté. Toujours couru un peu, mais voilà, j'ai profité des études, on va dire. Et j'ai repris avec mes collègues sur Paris. Et là, j'ai commencé à faire des marathons, mes premiers trails. Et les premiers grands trails, ça fait depuis, je crois, l'année avant le Covid, où j'ai fait mon premier 70. D'ailleurs, sur l'Infernal, l'Infernal 70, j'avais fait. mon histoire avec l'Infernal ne date pas de cette année. Et voilà, et à partir du Covid, j'ai commencé à vouloir faire du vraiment très long. Parce que c'est ce qui me plaisait, faire la petite sortie, pas forcément me mettre dans le dur, mais voilà, sortie plaisir. Et du coup, augmenter progressivement la distance jusqu'à là, le 200 km qui est ma distance la plus longue.
voilà. Distance la plus longue en sandales ou la plus longue
Tout simple. Tout confondu. Ouais, tout confondu, parce que je suis coureur en sandales depuis l'année dernière. J'ai démarré en mai l'année dernière. Alors j'étais déjà un coureur, je dirais pas que j'avais les chaussures minimalistes, mais j'avais déjà une foulée, j'avais déjà travaillé ma foulée pour qu'elle soit très légère.
Donc plutôt une foulée avant-pied.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis une fréquence de pas qui est à 180, grosso modo dans la littérature, on dit que c'est cette foulée-là qu'il faudra avoir. Ça reste un ordre de grandeur, hein. Faut pas se fier juste aux 180. Mais voilà, globalement, ça veut dire que tu fais pas des trop grands pas, pas des trop petits pas, que t'es globalement dans une bonne fréquence, quoi.
Alors ça, c'est... Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais sur ce 180, c'est quelque chose... Je crois que depuis que j'ai une corose, je vois ça, en fait, dans le résumé de mes sorties. C'est quoi, en fait? C'est le nombre de pas à la...
Par minute.
Pas à la minute.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est à quoi?
Ouais, c'est
à
pas...
la minute.
Ouais.
Ah, ouais.
Attends, maintenant, tu me mets un doute. Oui, si, c'est ça.
180 à la minute, ok. Okay.
Et voilà, en fait, d'avoir une fréquence. Souvent, on a une fréquence plus basse que 180. Et du coup, ça veut dire que tu fais des foulées assez longues. Donc, si tu as une foulée assez longue, c'est que tu attaques un peu plus talon. Et si tu attaques un peu plus talon, bon, bah, c'est que du coup, tu n'utilises pas ton côté élastique, côté ressort plutôt des jambes. Voilà. Quand tu es à 180 minutes, tu es plutôt sur l'avant. Et du coup, tu utilises ce côté ressort avec le tendon d'Achille, le genou, là, qui se compressent vraiment et qui repartent. Quand tu attaques talon, tu bloques un peu tout ce système.
Ouais.
Voilà. Donc du coup, j'avais déjà travaillé ça avant en chaussures et du coup, ben, ma transition en sandales est allée un peu plus vite. Alors, je n'ai pas tout de suite démarré en pantasandales. J'ai démarré avec les Xero Shoes. Alors, pourquoi j'ai choisi cette marque? Clairement, c'est... je suis tombé sur un site, elle m'allait bien, c'était dans mon ordre de prix. Et puis, ben, ça, je me suis dit, de toute façon, pour commencer, il faut bien commencer par quelque chose. Et donc, elles me plaisaient bien, elles m'ont permis de faire une transition, faire ma transition. Et ce qui me déplaisait, c'est que c'était déjà une marque américaine. Moi, je suis pas, j'aime pas changer de chaussures régulièrement. Du coup, j'aime bien réparer mes chaussures jusqu'à ce que mort s'en suive, mais vraiment mort s'en suive. Et sur ces sandales-là, c'était assez difficile de réparer. Il y avait plein de petites pièces qui, une fois cassées, c'était mort. Et via les réseaux, j'ai commencé à discuter avec Nicolas que tu as eu sur ton podcast, Nicolas Cassier, ou Nico de Dru, en fonction de par quelle approche. Et du coup, on a parlé de Panta, et voilà, je me suis dit, bah, en fait, cette sandale, en plus, elle est sympa. Elle fait tout en Europe, donc ça, c'était un gros plus pour moi, pour le côté écolo de la chaussure, quoi. Et puis, en fait, s'il y avait quelque chose à réparer, c'était assez facilement réparable. Là, les sandales avec lesquelles j'ai couru, donc pour l'instant, j'ai que deux paires de sandales, une pour la route, une pour le trail. Donc, les trails, c'est les Aros. Et sur l'été, donc j'ai fait beaucoup de trail quand même, et ça commençait à s'user au niveau de la tache sous la semelle. Et j'avais peur que ça lâche pendant le trail. Et là, juste avec un petit coup de colle, bah, en fait, ça a tenu nickel sur les 200 km. Donc, ouais, les seuls points où il y a possibilité que ça casse, c'est à cet endroit-là et à l'arrière. Mais à l'arrière, j'ai toujours pas eu de problème, alors que ça fait, depuis avril, hein, 1500 km, j'ai couru avec ces sandales. Et voilà, sinon, mis à part ce petit point-là sous la semelle, elle est comme, quasi comme neuve, quoi. C'est côté, la côté durabilité de la chaussure, le côté européen de la chaussure et l'état d'esprit de tous les gars de chez Panta que j'ai rencontrés, que je trouve trop bien. Et voilà, c'est pour ça que je suis passé à ce modèle-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on en a parlé pendant qu'on enregistrait, mais oui, maintenant, je suis ambassadeur Panta depuis... Je l'ai appris pendant la course. Au dernier avito, j'ai eu un message de Nicolas, justement, qui me fait « Allez, si tu finis... » T'as la petite surprise à l'arrivée. ça booste à accélérer sur la fin.
Génial. Génial. Et ta transition, enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, allez, je switch aux sandales. Est-ce que c'est, toi aussi, Born to Run?
Alors, c'est venu après, Born to Run. Je le connaissais, mais je ne l'avais pas lu. Non, moi, vraiment, la transition au démarrage, pourquoi j'ai voulu changer de type de chaussure, c'était vraiment le côté écologique. J'en avais marre de jeter des chaussures qui, quand t'as le mèche qui est cassé, la chaussure est déformée et du coup, quand c'est moins tenu à la cheville, ça commence à devenir un peu dangereux. Et ça m'énervait que juste à cause de ce petit truc-là, alors que tout le reste allait bien, il fallait que je change de chaussure. Du coup, je cherchais à la base des chaussures qui étaient plus écolo, s'il y avait possibilité de changer juste un petit truc, juste un petit machin. Et j'ai pas trouvé, enfin pas quelque chose qui m'allait. Et du coup, un peu par hasard, je suis tombé sur des gars qui couraient en sandales. Et je me suis dit, en fait, c'est cool. Déjà, c'est trop stylé. Et après, de me renseignant un peu comme ça, c'est par la clinique du coureur, moi. Enfin, on va dire l'aspect technique que j'ai découvert, plus la sandale et le pourquoi de la sandale. Et après, via la clinique du coureur, j'ai vu Born to Run, je l'ai lu, je l'ai re-relu une deuxième fois. la clinique du coureur, j'ai le bouquin aussi de Blaise Dubois, là, où je le relis régulièrement sur la foulée. Donc c'est plutôt par l'aspect écologique à la base que j'ai découvert la sandale. Après, quand je les ai essayés, c'est le côté... la sensation de liberté, d'être pieds nus et de courir pieds nus, ça c'est quelque chose, ça, on s'en accroche direct, hein. C'est fou. Hein. Très très vite, après quand je devais remettre les chaussures, c'était un calvaire, tu te sens enfermé et tout. Franchement, maintenant je sais même pas si j'arriverai à recourir en chaussures. J'en ai toujours au cas où. Là dans le trail, j'avais dans mon sac de délestage des chaussures, si jamais j'avais un pépin pour finir la course. Hein. Le plus important c'était de finir la course. Le côté écologique, après le côté liberté d'être pieds nus, et la troisième chose, on en a commencé à en parler déjà, c'est le revenir à une foulée naturelle. Ça je trouve ça très important, surtout quand tu fais de la longue distance, quand il y a beaucoup d'impact, le fait de revenir à quelque chose, la foulée qui est la plus adaptée à ton corps. Je dis pas que tout le monde ne peut pas avoir la même foulée, vu qu'on est tous différents. Musculairement, structurellement, on a tous à peu près la même morphologie, mais il y a des petits détails qui font qu'on n'a pas tous la même foulée. Et le fait d'être en sandale, donc d'avoir le moins d'impact possible sur ton pied, tu reviens naturellement à ta foulée naturelle et du coup à ta façon la plus naturelle de marcher et de courir et du coup de te faire moins mal au final. Mais même si c'est naturel et que tu te fais moins mal, c'est là où on revient encore une fois à la transition, c'est que vu qu'on est habitué à courir en chaussures, du coup, notre corps s'est habitué à la chaussure, il faut le déshabituer un peu à ces protections qu'on a grâce à la chaussure. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, la chaussure, je ne veux pas prôner, tout le monde doit se mettre en sandales et tout, mais parce que la chaussure, elle a un intérêt, elle peut avoir un intérêt si tu as une petite douleur au mollet, potentiellement, le temps que ta douleur au mollet parte, tu peux peut-être soulager un peu le truc et continuer ton effort avec la chaussure. Mais pour moi, ça doit rester des moments de... temporaire ou palliatif. La clinique du corps parle de ça en fait. C'est souvent la chaussure, elle devait être palliative à la base et maintenant elle est devenue la norme. C'est sur ce côté-là. Donc je veux pas mettre complètement la chaussure, dire faut pas, mais voilà, moi je suis plus dans l'idée où le corps est capable de faire plein de choses tout seul si tu lui laisses le temps et revenir le maximum à quelque chose de très simple. Et là, je parle de la chaussure, de la sandale pour la course à pied, mais j'applique ce principe-là dans tous mes domaines, dans tous les domaines de ma vie. De revenir okay. vraiment
quoi,
à des choses.
Par exemple,
à côté de ça, moi, je suis en train de refaire une maison, par exemple. Bah, le but, c'est de revenir à quelque chose de simple où je maîtrise ma maison. Du coup, je refais des choses moi-même avec, par exemple, j'isole en terre paille en ce moment. Je vais pas acheter un isolant tout prêt. Voilà, c'est comment on faisait avant. On refait les choses simples. Je maîtrise la maison. Pourquoi je le fais, etc. Pareil, je fais, par exemple, mon jardin. J'essaie de lancer un jardin en permaculture. Bah voilà, c'est revenir à des petites choses simples. Plutôt que d'aller en supermarché. J'y vais toujours parce que je peux pas tout faire, mais globalement, revenir petit à petit à des petites choses comme ça. Voilà. C'est un exemple
intéressant comme,
ailleurs, comme, mais comme voilà.
Non, mais c'est intéressant de voir comment finalement ta pratique, tu vois, de quelque chose d'assez, un petit aspect de ta vie qui est la course à pied, en fait, fait complètement écho à une, j'ai l'impression, une philosophie de vie un peu plus globale que tu appliques un peu partout, ta maison, le jardin,
c'est ça.
Etc.
En fait, ouais, pour moi, la course à pied, à la base, c'est un moyen d'expression de ce que je suis ou qui je suis plutôt que ce que je suis. Donc, si je cours, c'est pour... déjà, ça me fait plaisir, de base. Mais je veux dire, quand tu es, par exemple, dans une course ultra comme l'Infernal, quand tu es au 160e, que ça fait 30 heures que tu cours, que tu es dans la nuit et que tu en as ras-le-bol, c'est pas le plaisir qui te fait terminer la course. Hein. Là, le plaisir, tu l'as pas à un moment donné. Souffrir pour souffrir, non. Donc, il faut quelque chose de plus grand. Et c'est dans ce quelque chose de plus grand que tu vas trouver les ressources pour terminer. Et dans ce truc plus grand, bah, pour moi, il y a ça. C'est le fait de revenir à des choses simples. Donc, me dire, j'arrive à terminer un ultra dans le plus simple appareil. moi c'est ça qui me fait vibrer, et puis d'ailleurs sur les réseaux c'est ce qui marche bien et c'est ce qui impressionne certaines personnes, c'est ce côté, c'est pas, il s'est rajouté une difficulté, c'est moi je veux pas que ça soit perçu comme ça, c'est vraiment il croit en ce truc là, il le fait, il le termine, c'est beau quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je cours pas j'ai pas de bâton non plus en trail.
Ah oui.
Non, ouais, j'ai pas de bâton. C'est moi.
J'avais zappé ça. D'accord.
C'est moi tout seul. On peut pas dire c'est la chaussure qui t'a aidé, non. On peut pas dire c'est les bâtons qui t'ont aidé, non. C'est moi.
Attends, rassure-moi, tu te ravitailles quand même. Tu fais
ouais,
pas
ouais,
ça.
Ouais. Non, j'ai. Et puis j'avais d'ailleurs un sacré groupe avec moi lors de la course, parce que j'ai ma famille qui était là, ma copine, mon cousin, un copain qui court beaucoup aussi. Donc là, j'ai eu de la chance. J'ai eu un accompagnement à côté. C'est la première fois que j'ai eu ça. Si je l'avais eu l'année dernière, dans une moindre mesure. Mais là, pour ma famille, ils savaient que cette course était importante pour moi, vu que je l'avais ratée l'année dernière. Et ils voulaient être là. Et je les en remercie de fou, parce que c'est un vrai soutien de dingue. Après, je ne veux pas non plus me reposer sur ça. D'ailleurs, il y a certaines autres courses que je ferai à l'avenir. Je ne voudrais pas d'assistance. Je veux essayer d'arriver à le faire moi tout seul. Mais même si j'ai quand même plusieurs trails maintenant dans les pattes, une course aussi longue, je n'avais encore jamais fait. Et vouloir tout de suite faire tout potentiellement en autonomie, c'est un peu mettre trop d'un coup, quoi. Il y en avait déjà beaucoup, déjà avec cette distance qui était la plus longue, mon dénivelé qui était le plus long, plus gros en tout cas, le tout en sandales. Du coup, ça faisait déjà beaucoup de choses.
Sans bâton.
Après le bâton, ça fait un an que je cours plus. Je n'ai plus de bâton du tout depuis un an.
Ah, même à l'entraînement, tu...
Ouais, non, plus de bâton du tout.
Parce que je ne sais pas si tu as des chiffres en tête, mais moi, il me semblait le pourcentage, enfin, l'impact de l'utilisation des bâtons, moi, j'avais toujours ce chiffre de 25% en tête, tu vois, que ça t'enlève, globalement, ça t'enlève l'équivalent en charge corporelle de 25% de ton poids chaque fois que tu appuies dessus en montée ou en descente. Donc, c'est quand même pas négligeable, parce que sur 200 bornes, je pense pas que tu sois un très gros gabarit, mais bon, quand même, ça fait une aide non négligeable.
Non, c'est sûr. Non, mais je le vois. Hein, mais puis même avant, quand je courais, je courais aussi en bâton avant, et je le voyais en montée quand tu appuies sur les bâtons. T'as de l'impulsion. Moi, c'est plus dans les descentes où potentiellement ça m'aiderait pour justement limiter les chocs. Ouais. Parce qu'en montée, je préfère être sans bâton, en fait. je suis bien la tête dans le guidon là, à grimper sans trop se poser de questions. Ça me va bien. Et puis d'ailleurs, en montée, j'allais plus vite que les autres qui étaient en bâton.
Ah oui.
En fait, je fais des beaucoup plus petits pas aussi qu'avant en montée. Donc, j'ai une fréquence très rapide. Parfois, je cours même en montée. J'étais surpris que même à la fin de la course, j'arrivais à courir encore en montée. Parce que ces petits pas, parce que c'était, j'étais dans un rythme et je ne le bougeais pas. En fait, mon but là, dans la course, c'est que ma fréquence de pas elle soit quasiment la même en montée, sur plat, en descente.
Ok.
Et pareil, c'est des ordres de grandeur. Hein, je ne suis pas pile poil comme ça. Mais, et qu'en fait, c'est juste la longueur de mes pas qui va changer entre la descente, le plat et la montée. Mais sinon, garder la même fréquence pour... Voilà, le corps, il est habitué à ça, ben, tu le gardes dans cette habitude-là.
Et ça, tu le monitors du coup avec ta montre ou je sais pas si t'as un...
Non, là, je le fais vraiment au ressenti.
Au ressenti.
Et je le sens, okay. Quand j'arrive en montée, bon, ben, je garde la même fréquence, mais les pas se raccourcissent. Je le sens tout de suite parce que je vais chercher moins loin. Voilà. Je mettrai un petit modulo quand même sur la descente où, en fait, j'allais quasiment plus vite en montée qu'en descente pendant la course. Parce que la descente, vu que je temporisais tout et que elles sont très cassantes, les descentes de l'Infernal, il y a pas mal de petits cailloux ou gros cailloux qui font des sortes d'escaliers. Et là, tu peux pas. Enfin, en tout cas, je suis pas suffisamment à l'aise encore en sandales pour pouvoir courir dedans. Il faut que j'aille mollo et que souvent j'allais en marchant, en mettant les fesses un peu par terre parfois. Et ouais, voilà.
Juste pour revenir sur ce que tu expliquais, le fait que tu pour tes prochains trails, peut-être que voilà, tu viseras encore plus d'autonomie, pas d'assistance, etc. En quoi est-ce que c'est important pour toi cette notion de je le fais avec mes moyens et juste mes moyens?
C'est pas ça, pareil, c'est sur les, on va dire, des aspects de vie que j'essaie d'appliquer partout. Il y a le côté mettre en valeur le côté humilité, résilience et revenir à des choses simples. Le côté humilité, voilà, c'est tu t'inscris à une course et c'est montrer que t'es tout petit, quoi. Et c'est bien mesurer la chose quand ça devient difficile comme ça et que bah là pour le coup je me mets des difficultés en plus parce que c'est pas forcément la course ne le propose pas forcément, mais c'est juste de dire bah voilà, tu t'attaques à un monument, ouais, tu vas te remettre à ta place et tu vas faire comme toi t'es capable de faire en démarrant tout petit, voilà. Enfin, quand ça devient difficile, ouais, tu as besoin de manger un petit peu, bah voilà, tu manges un petit peu. Et tu ne vas pas aller attendre que quelqu'un va t'apporter une aide de l'extérieur. Donc voilà, c'est arrivé à se débrouiller un peu tout seul. Donc il y a ce côté. Enfin, c'est comme ça que je vois ce côté humilité dans le trail. Et ce côté aussi, ben voilà, résilience. Si tu veux arriver au bout, ben, il va falloir continuer, te battre tout seul contre les éléments. Et ce côté revenir, encore une fois, des choses simples, c'est voilà, tu. T'attends pas d'extérieur, t'arrives à te débrouiller tout seul, tu vas le faire avec tes petits bras, tes petites jambes, tes petits pieds, et t'essayes d'aller au bout comme ça. C'est un peu un défi contre moi-même, mais voilà, c'est le côté... Ouais, c'est ça, se débrouiller tout seul, ce côté autonomie, ouais. Et voilà. D'ailleurs... Bah en fait, je fais beaucoup aussi. Alors, je m'inscris à des courses officielles, mais je me fais aussi mes propres défis à côté où il n'y a strictement aucun enjeu. Je le fais moi par rapport à moi. Par exemple, là, en début d'année, en février, bah avec Tanguy, c'est mon pote qui court et qui a fait mon assistance d'ailleurs à l'Infernal, on s'est dit bon, bah viens, on fait le tour de la forêt de Brocéliande, c'est la forêt à côté de chez moi. On fait le GRP, le Grande Randonnée de Pays, et puis on se la fait tout seul comme ça. C'était 130 bornes, et on s'est dit bah voilà, allez en autonomie. Et puis voilà, et puis je trouve ça trop bien, quoi. C'est pas obligé d'attendre, pareil, c'est pas obligé d'attendre une course pour pouvoir se faire des défis de tes défis sympas, quoi. Donc c'est ce côté là ouais, c'est encore une fois revenir à des choses simples, pas forcément attendre de l'aide de l'extérieur, mais arriver à se le faire soi-même. Dans la même idée, maintenant quand je prépare aussi mes courses d'ultra, enfin je le fais que depuis cette année, donc je dis maintenant comme si c'était une généralité, mais je l'ai appliqué que cette année. J'ai fait l'UT4M aussi, que j'ai abandonné cette année, mais j'ai fait l'UT4M et l'Infernal, c'était mes deux grosses courses de l'année. Et avant ces courses-là, bah, j'ai décidé de les faire en reconnaissance. Donc je pars 4 jours avant, enfin 2 semaines avant, je le fais en reconnaissance sur 4 jours, en bivouac, autonomie complète. Et voilà, je trouve ça cool. C'est vraiment une reconnexion avec toi, simplement toi, la nature, te retrouver tout petit, ce côté humilité, te dire bah, c'est important pour moi, du coup, ce côté résilience, tu vas continuer parce que c'est long et tu as le temps de ressasser tout ça pour savoir est-ce que c'est vraiment important. Parce que si tu vas au bout, c'est que c'est vraiment important. Et voilà, revenir à des choses simples. Voilà, là, tu reviens, tu as un petit peu de réseau pour communiquer avec la famille en disant « Ok, je suis là. » Tu prends la petite photo, la petite vidéo pour te souvenir où est-ce que tu es passé. Et puis, c'est tout, quoi. Après, le reste, tu es tout seul. Mmh. Et voilà.
La déconnexion, se créer sa bulle.
C'est ça.
Excellent. Mais c'est quoi ton activité professionnelle, du coup, au-delà du trail?
Alors, je suis...
T'es pas trailer professionnel?
Non, je suis pas trailer professionnel. Alors, je suis coach bien-être et performance. Okay. Donc, j'anime autant pour du coaching individuel que des animations en entreprise sur le principe du bien-être et de la performance. Le but, c'est que chacun gagne en confiance en soi et rende son monde plus sexy. Voilà. Et j'insiste bien sur le côté bien-être et performance, parce que pour moi, tu peux pas dissocier les deux. Si tu veux être performant, il faut que tu te sentes bien dans ta peau. Et si tu veux être bien dans ta peau, il faut que tu aies des accomplissements. Et du coup, ça passe par de la performance. Ouais. Du coup, j'associe toujours les deux. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, ouais, je fais ça. Et du coup, le trail me permet de mettre en application, mettre en lumière des principes que je partage lors de mes coachings, quoi.
Bah écoute, visiblement, ça marche très bien. je voulais revenir sur la clinique du coureur que tu mentionnais tout à l'heure. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion ni de lire leurs livres, ni de les interviewer. Mais ça fait plusieurs fois que j'entends parler de... Enfin, en tout cas, que visiblement, ils ont communiqué sur la foulée minimaliste. Comment tu résumerais, toi, du coup, ce que tu as découvert en lisant... Alors, je ne sais pas si c'était un livre, un blog, tu as mentionné un livre, mais je ne sais pas s'il n'y avait que ça. Globalement, qu'est-ce qu'il dit sur la foulée minimaliste?
Alors, il y a un livre et il y a un site internet où il parle de pas mal de choses. En fait, le principe de la clinique du coureur, de base, c'est Blaise Dubois, c'est un Québécois qui était, je crois, ostéo ou kiné de formation. Et il s'est rendu compte, ce qu'on lui avait appris à l'école, il y avait des choses qui s'avéraient fausses. Notamment pourri par le marketing des chaussures, parce qu'il était plutôt spécialisé de la course à pied. Et du coup, lui, son principe, c'était, et c'est toujours le principe de la clinique du coureur, c'est d'éplucher toutes les revues scientifiques pour en faire ressortir les vraies données, pas les données marketing. Et il est ressorti de ça que, en fait, la chaussure de course, on va dire traditionnelle telle qu'on l'a maintenant, elle ne justifie pas de les avoir au grand public pour justifier que tu te blesseras moins, que ce soit au genou, que ce soit aux chevilles, que ce soit tendon d'Achille, au pied, plus de confort, etc. Et donc, pareil, il dit pas que la chaussure est mal, il dit juste que ce soit le remède pour tout, non. Donc, en fait, c'est parti à la base de la chaussure, enfin, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, mais c'est sur tous les aspects de la course à pied. C'est en fait supprimer les fausses croyances sur la course à pied et faire ressortir les vraies données, quoi. Dont la course minimaliste, c'est son premier truc, mais il parle pas forcément de courir en sandales, hein. Lui, il court en petites chaussures. C'est plutôt ça, la clinique du coureur, c'est vraiment ça. Okay. C'est, en tout cas, tout ce qui ressort, et quand ils ont un doute, ils le disent. par exemple, la chaussure... Ok, ils disent peut-être la chaussure, il y a des bonnes choses, mais il n'y a rien qui est ressorti scientifiquement qui permette de justifier. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça qu'ils disent. C'est pas la chaussure, c'est mal, c'est il n'y a rien qui justifie.
Ça, quand tu l'entends, je trouve que c'est hallucinant parce que quand tu te mets, je ne sais pas comment toi c'était, tu vas nous en parler, mais beaucoup de gens, quand tu te mets à la course à pied, le premier truc que tu regardes, c'est quelle chaussure prendre et tu as pléthore de conseils sur, alors il faut du drop, il faut de l'amorti pour éviter les blessures. Et en fait, quand tu vas creuser un peu, j'en avais parlé avec Olivier et Nicolas, ou que Olivier, je ne sais plus trop, mais tu as un professeur à Harvard qui a fait pas mal d'études, qui a publié pas mal d'articles là-dessus, de papiers, et c'est exactement ça, il dit, mais en fait, il y a zéro preuve scientifique que courir en chaussures améliore la performance ou limite les blessures, zéro. Bon, il n'y en a pas non plus qui prouve que courir en mode minimaliste, sandales ou pieds nus, c'est mieux. Mais on nous fait croire qu'il faut absolument courir en chaussures, tu vois, ou faire des randos en chaussures montantes, bien serrées, bien rigides. bah, en fait, non, c'est oui. absolument pas prouvé. C'est la chaussure de run telle qu'on l'utilise aujourd'hui, c'est 1950, l'invention.
C'est ça, ouais.
ouais. Et je trouve ça hallucinant quand tu découvres, enfin, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, mais waouh, ouais. qu'est-ce qu'on fait en fait ?
Non, c'est ça. Mais ce gars d'Harvard, ils en parlent dans la clinique du coureur et puis dans Born to Run aussi, je crois qu'ils en font référence.
Il est mentionné, ouais.
Ouais, ouais.
Alors, c'est vrai qu'il va aller voir, je remettrai le lien en description de l'épisode. C'est Daniel Lieberman.
C'est ça, ouais.
Department of Human Evolutionary Biology, Harvard. Qui a fait un certain nombre d'articles très intéressants. Alors lui, il y a d'un point de vue scientifique, par contre, même si c'est pas prouvé que c'est mieux physiologiquement de courir en mode minimaliste, par contre, il publie une stat, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est sur l'économie d'énergie.
Oui.
Et là, du coup, on va revenir à la foulée. Tu vas nous dire ce que t'en penses, mais où il dit que globalement, en fait, quand t'as une foulée naturelle, tu es 2 à 3% plus économe en énergie parce que t'as un meilleur retour, en fait. Un peu comme un vélo carbone.
Ouais.
Tu mets un coup de pédale, t'as le retour d'énergie tout de suite. Alors qu'en chaussure, bah, il y a beaucoup d'énergie qui... Enfin, beaucoup. Quelques
ouais.
pourcents. Qui part dans l'amorti, dans la semelle.
Mais parce que
perds, en fait.
Ouais, quand tu as la foulée naturelle, en fait, tu accumules l'énergie que tu as l'impact au sol dans tes tendons et qui va le restituer.
En mode ressort.
Voilà, c'est ça, en mode ressort. Tandis que ouais, quand tu as une. Or, pareil, tu peux être en chaussure et avoir une foulée naturelle, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que naturellement, enfin, pas naturellement, mais. Vu que c'est confortable, tu peux avoir tendance à attaquer les talons et du coup perdre ce truc-là. Et encore une fois, je dis attaquer les talons, il y en a qui posent le talon et qui ont une foulée élastique. Parce que le talon, c'est juste le support, mais il n'y a pas tout le poids de corps qui vient sur le talon. Le vrai problème, c'est quand il y a tout le poids de corps qui vient sur le talon, parce que là, tu perds ce côté élasticité. Et du coup, bah, pour repartir vers l'avant, et bah, c'est tes muscles qui vont devoir faire le boulot. Alors que si tu as accumulé dans tes tendons d'Achille, dans les genoux et tout, et que ça repart, et bah, en fait, il y a une partie de l'énergie que tu as accumulé dans ce système ressort qui repart, que tu perds si tu as une attaque. Quand je dis vraiment talon, c'est tout droit, quoi. Il y a pas de...
Tu plantes le
et
talon.
Et tu sens qu'il y a le choc. Pouf.
Ah ouais.
Voilà. Non, après, en termes de performance sur les foulées la foulée naturelle ou foulée même en chaussures et tout, je crois le seul endroit où ils ont reparé qu'il y avait un vrai impact, c'était le poids de la chaussure.
Okay.
Parce que en fait, le poids de la chaussure, même si c'est quelques grammes, c'est en bout de ligne, t'es au bout du pied, et du coup, bah, tout ça, mis bout à bout sur 10 km, 20 km et tout, bah, c'est du poids que tu portes au fur et à mesure, et ça, c'est un vrai, vrai impact sur la... Là, je parle purement performance. Après, pour tout le reste, il dit, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien qui justifie.
C'est ouais, ce que je trouve vraiment fascinant. Hein. Quand ouais. tu commences à creuser un peu, tu te rends compte que y a... Ouais, c'est loin d'être une science exacte, en fait, ce qu'on nous présente actuellement.
Et puis, pour pousser un peu plus loin, je crois que c'est la clinique du coureur qui a déterminé ce que c'était le minimalisme, l'indice minimalisme. Parce qu'on parle de beaucoup de choses en disant, ben, en tout cas, encore une fois, c'est le marketing qui dit ça, mais oh, une chaussure à zéro drop, c'est une chaussure minimaliste. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Dans le minimalisme, il y a déjà le poids de la chaussure, ça on en a parlé. Il y a le drop, effectivement. Il y a l'épaisseur de la chaussure. Parce que tu peux avoir un zéro drop, mais une énorme semelle comme les Hoka, ouais. par exemple. Le quatrième aspect, c'est pas de correction. Tout ce qui est pronation, supination, ça, il n'y a pas. Et le cinquième aspect, c'est la flexibilité de la chaussure. En fait, ces cinq aspects-là, c'est tout ce qui vient perturber ta foulée naturelle, c'est ce qui vient rajouter du confort, c'est ce qui vient rajouter de la protection. Ben en fait, un indice minimaliste, on va dire 100%, c'est tes pieds nus. Et sandales, tu as une toute petite semelle, mais c'est juste pour éviter les coupures aux pieds, quoi. Mais ça s'arrête là. Et après, tout ce que tu rajoutes en plus, ça c'est ce qu'on va appeler après de la chaussure maximaliste. Tu vas rajouter de les conforts un peu à droite, à gauche.
D'accord.
D'accord. C'est la clinique du coureur, du coup, qui a déterminé ce côté minimalisme.
Indice minimaliste. Ok, bah écoute, j'irai regarder. Bah, vraiment super intéressant.
Ils ont un site internet où tu peux rentrer le nom de ta chaussure et il te sort son indice minimaliste.
Ah ouais.
Alors je pense pas qu'il y ait toutes les chaussures, mais c'est pas mal.
Ok.
J'ai pas regardé super. Panta, je crois pas qu'il y ait trop les sandales encore, mais.
mais je... Bah Panta, t'as un indice.
Ah bah là c'est 100, c'est 100, ouais, c'est 100, c'est sûr.
ta transition, du coup. Bon, t'expliquais que voilà, en tout cas d'un point de vue foulé, tu travaillais déjà la chose, on va dire, avant de passer à la sandale. Mais malgré ça, il t'a fallu combien de temps et est-ce que t'as eu une sorte de stratégie pour vraiment transitionner complètement sur la sandale en course à pied.
Alors, j'ai pas fait un plan très détaillé et tout. C'est ma stratégie, c'est progressivité. Voilà.
Okay.
Et voilà, tu vas, tu t'attaques pas, ouais, tu passes de 2 km à 20 km d'un coup, toujours un peu progressivement, y aller progressivement. Alors, au début, j'ai augmenté progressivement les distances. Après, j'ai augmenté un peu, alors j'ai réduit un peu les distances, mais je suis allé un peu plus vite. Au début, c'était que de la route. Après, j'ai attaqué sur des petits chemins. Donc voilà, à chaque fois, je changeais un petit paramètre au fur et à mesure et je grossissais au fur et à mesure. Et bon, là, par contre, j'ai fait un gros gap avec le 200 km parce que ma plus longue distance, c'était 90 avant. Mais je veux dire, le travail, il était fait avant. Ouais. Ma foulée, que ce soit au 90e kilomètre ou au 200e kilomètre, de toute façon, je suis rincé. c'est bon. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. C'est vraiment progressivité. Donc, j'ai démarré en mai 2022. Tout l'été, très, très progressif. Je crois que le max que j'avais fait, c'était 12 bornes à la fin de l'été. Après, j'avais fait mon infernal l'année dernière encore en chaussures parce que bon, j'étais clairement pas prêt encore à faire en sandales. J'ai fait une grosse pause. Après octobre, novembre, décembre de l'année 2022, j'ai repris entre chaussures et sandales tout doucement. Et c'est vraiment cette année où j'ai pu commencer à accélérer les distances, la vitesse. Et que là, je me suis dit, bon, en fait, on va s'envoyer des petits challenges pour pouvoir faire ça, quoi. Et donc, du coup, le Tour de Brocéliande dont j'ai parlé tout à l'heure, là, mon défi, on va dire perso, j'avais fait la moitié en sandales, la moitié en chaussures.
En commençant en sandales ?
En commençant en sandales, ouais. Okay. Et à la mi-chemin, je sentais que je commençais à avoir des petites tensions sous le pied. Donc là, hop, j'ai rebasculé en chaussures. Et quand je dis que j'étais en autonomie, j'avais les chaussures dans le sac tout le long. Hein. Donc j'étais presque content de les mettre après parce que j'avais moins de poids dans le sac. Un mois après, je fais le marathon de Nantes en sandales. En 2h56. Ouais, mon objectif, c'était faire sous les 3h.
Waouh.
Et après, j'ai fait mes autres trails tout en sandales en augmentant progressivement les distances, pareil. Mais voilà, la vraie transition, elle a été ouais, sur l'année, surtout 2022, où j'y suis allé vraiment progressivement. Et 2023, c'était, on va dire, j'ai continué la progressivité, mais c'était là, quoi. Maintenant, il fallait juste qu'il y ait des résultats pour montrer que, OK, ça, c'est validé, ça, c'est validé, ça, c'est validé.
Ouais.
Et mon objectif, maintenant, en tout cas pour 2024, c'est... OK, j'ai validé du très long. Maintenant, j'ai envie de montrer que la sandale, on peut aller très vite avec. Donc, j'ai envie de battre mon record au marathon, au semi et au 10 km. Donc, ce sera mes premiers objectifs de l'année 2024.
Génial.
Et voilà. Montrer vraiment que c'est complet. C'est pas juste réservé que à du trail ou que de la route ou que du lent, que du rapide. Non, on peut tout faire. Voilà. C'est un peu mon objectif.
Bah, déjà, un temps au marathon en moins de 3 heures en sandales, pour beaucoup, 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 beaucoup de gens, c'est carrément de la performance.
Non, c'est donc... sûr. Après, mon record en marathon, c'est 2h46. Donc voilà, donc j'ai envie de, j'ai envie de l'avoir. Mais ça, c'est, ouais, c'est les petits défis perso pour se donner envie d'y aller. Et, mais voilà.
Et pas de blessure sur cette phase de transition ?
Zéro blessure. Vraiment, zéro blessure. Et encore une fois, dans progressivité, il y a... donc, en fait, même le principe, que même en courant en chaussures, hein, pour n'importe quelle course, si on ne veut pas se blesser, c'est la progressivité. D'ailleurs, pour revenir, la clinique du coureur, c'est ce qu'ils mettent beaucoup en avant. Si vous ne voulez pas vous blesser, il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a pas « faut faire du kiné »,« faut faire que des 30-30 ou que des 10 km », c'est progressivité. Dès qu'il y a une blessure, en général, ils disent 70 ou 80% des blessures, ça vient d'un trop gros bond d'un coup.
Surcharge,
soit t'es allé trop vite, soit t'as fait trop long d'un coup, soit t'as fait un gros changement sans y aller progressivement. Du coup, donc ça, c'est valable pour tout. Donc ouais, dans la progressivité, il y a aussi apprendre à s'écouter. Et dès que je sentais que là j'ai voulu y aller un peu plus progressivement, donc je respectais plus ou moins ce que je voulais, mais peut-être que je suis un peu plus fatigué ou j'ai moins bien mangé, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu cette douleur là. Bon, on s'arrête et on reviendra demain, c'est pas grave d'avoir raté une séance ou de l'avoir fait moins. Encore une fois, je reviens à ces principes d'humilité, c'est accepter le fait que là je suis peut-être allé un peu vite, hop, un petit pas en arrière et on repart, quoi. Donc en tout cas, si quelqu'un veut faire une transition vers le sandal, je dirais ces deux trucs-là, c'est mes deux seuls conseils, progressivité et s'écouter. Si vraiment à un moment donné on sent qu'il y a une douleur qui est un peu anormale, alors je dis pas n'importe quelle douleur il faut s'arrêter, mais au bout d'un moment on apprend à se connaître aussi et dire bon, ça, cette douleur elle est un peu bizarre, je vais attendre un peu et je vais repartir.
Voilà. Ou en tout cas peut-être même avant la douleur, non, c'est plus une gêne
dès que oui, c'est ça, gêne. Quand je dis douleur, oui, c'est gêne en général, ouais, quand
avant
c'est,
d'arriver
mais
éviter la douleur en fait,
c'est ça.
Anticiper dès la gêne, ouais, ouais. Mais, c'est un super tip.
Mais après le seul truc, c'est quand on parle juste gêne, je sais qu'il y en a qui peuvent tomber après dans la paranoïa dès qu'il y a un petit truc bizarre, on s'arrête, alors que parfois c'est normal. Même en chaussures, tu fais un footing, tu comprends pas trop, t'as une petite douleur au genou, ça dure une semaine et puis c'est parti. Mais ça reste ouais, tu restes juste un petit peu attentif, c'est faut pas s'arrêter pour autant. Mais voilà, juste être un peu plus attentif et voir si ça évolue. Si ça évolue, bon, bah là, on revient en arrière. Et puis, si ça reste comme ça, bon, bah attendre un petit peu. Et en général, au bout d'une semaine, c'est parti. Après, si, cette gêne, elle reste là pendant un mois, deux mois, là, il y a peut-être à s'inquiéter. Mais voilà, c'est pour ça que je parle de douleur, c'est que c'est vraiment quelque chose d'anormal. C'est pas. Voilà. Même si ça doit pas aller jusqu'à la douleur, effectivement, mais voilà, ouais. C'est vraiment le côté anormal où il faut faire attention, quoi.
Comment tu le gères ça d'ailleurs sur une course de 200 km où je suppose qu'au bout d'un moment la douleur elle est un peu omniprésente un peu partout. Comment tu fais pour rester attentif et faire le tri entre la douleur entre guillemets normale et la douleur là il y a un truc chelou.
Alors moi déjà si j'ai une douleur qui est la même des deux jambes c'est que c'est normal. C'est que ça vient de la fatigue, mais globalement, t'es un peu équilibré des deux côtés. Souvent, quand t'as une douleur que d'un côté, c'est que potentiellement, t'as forcé plus d'un côté que de l'autre, et là, ça peut être dangereux. Alors, d'où je sors ça, je sais plus, c'était encore quand j'étais en club, on m'avait parlé de ça et ça m'avait marqué. Mais j'ai pas vérifié les sources. Faudrait que je voie à la clinique du coureur. Mais ouais, globalement, quand j'ai mal de deux côtés, c'est que c'est une douleur normale. Faut faire attention. Donc, par exemple, là, à l'infernal, j'ai eu mal sous la plante des pieds. À partir du 150e, dès que j'avais un caillou un peu pointu qui appuyait dessus, ça me faisait sauter. Mais voilà, j'avais la même douleur des deux côtés et c'est juste que le tendon il commençait. Alors je suis pas un expert si c'est muscle, tendon, mais ça commençait à être irrité quand même. Donc je faisais beaucoup plus attention. Et du coup, encore plus attention à avoir une foulée encore plus légère qu'avant. Du coup, ouais, je dirais vraiment cette distinction là. C'est si t'as mal les deux côtés, potentiellement c'est que c'est ok. Si t'as mal que d'un côté, première alerte, attention. Voilà, c'est cette grosse différence là que je mettrai en avant entre une douleur normale et pas normale, quoi.
Notion d'asymétrie,
c'est ça,
c'est super intéressant ça. Super. Et dans ta préparation du coup, au-delà de l'aspect minimaliste, est-ce que tu as eu, enfin comment tu te prépares, comment tu t'es préparé pour l'infernal? Et dans l'exécution, est-ce qu'il y a eu des choses pendant la course qui se sont passées vraiment différemment de ce que tu avais anticipé dans ton plan, dans tes entraînements, etc.
Yes. Alors, la préparation à un ultra, faut faire de la distance. Hein. Faut accumuler du kilomètre, faut en bouffer. Donc, j'en ai fait beaucoup. En fait, dès que j'ai fini mon marathon de Nantes, qui était fin avril, j'ai commencé à faire plutôt des longues sorties. Quasiment plus de vitesse que des longues sorties. J'habite en Bretagne, du coup j'ai fait du dénivelé comme je pouvais en faisant le hamster sur des petites côtes. Mais ouais, c'est bouffer du kilométrage à balle. Donc ça, j'en ai fait pas mal du coup mai, juin, juillet. Après juillet, fin juillet, j'avais l'UT4M où j'ai abandonné au 90e. Et là, je m'étais accordé une semaine de pause pour faire un petit break. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en août, j'avais complètement perdu la motivation de courir. Ouais, j'étais un peu dégoûté de la course. C'était pas lié à l'UT4M, je pense que j'en avais fait beaucoup. Et j'avais pas pris le temps de me ressourcer suffisamment entre. Du coup, le mois d'août, j'y suis allé vraiment très mollo. Je faisais que des toutes petites sorties de 6-7 bornes, mais vraiment juste plaisir. Dès que j'en avais marre, pof, je m'arrêtais. parce que le but c'était de retrouver la motivation avant l'infernal, parce que tu t'envoies pas, tu démarres pas un 200 km en ayant marre. Donc ouais, ça m'a un peu perturbé sur la préparation. C'est la première fois que j'ai eu un gros coup de mou comme ça, point de vue motivation. Mais bon, le travail avait été bien fait avant, là j'ai juste fait maintenir, et par contre j'ai quand même fait ma reconnaissance de l'infernal, donc sur 4 jours j'ai fait 200 bornes à 2 semaines de l'infernal. Donc ça c'est ce qu'on appelle souvent les blocs à faire entre 2 semaines et 1 mois avant la grande course. C'est se faire un gros bloc qui est très proche de ce qu'on va faire lors de la course, pour prévenir le corps que, attention, ça, tu vas devoir l'avaler, donc résiste bien là-dessus. Donc voilà, donc c'est en gros en termes de distance, en termes de dénivelé, l'idéal ce serait d'absorber ce que tu vas faire pendant la course. Et ça, c'est cool, parce que le faire deux, trois semaines avant, après tu te fais, on va dire, ta phase récup, mais t'es bien, quoi. Et du coup, je suis arrivé à l'infernal plutôt frais, avec juste ce petit doute, dû le mois d'août un peu perturbé, est-ce que la motivation va être là. Je pense que mentalement, il y avait d'autres choses. J'avais raté l'infernal l'année dernière, je venais de rater l'UT4M un mois avant. Du coup, dans la tête, c'était est-ce que je suis vraiment prêt. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de petits mécanismes dans la tête, des petits morceaux du puzzle qui manquaient, et que... Bon voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc ouais, du coup je dirais physiquement, ouais c'est ça, envoyer beaucoup de kilométrage, du des plus, penser à quelques semaines avant à se faire un week-end choc, une semaine choc, et puis surtout travailler son mental pour arriver frais le jour de la course. Parce que là, si j'avais voulu continuer et me dire il faut que je maintienne mon entraînement tout le mois d'août, je pense que je serais arrivé rincé au départ de l'infernal, avec pas l'envie d'y aller au final, et ça c'était un coup à être sûr d'abandonner, quoi.
On revient au fait de s'écouter.
Ah oui, non, s'écouter, c'est le maître mot. C'est le maître mot, surtout en ultra, parce que si tu pars trop vite au début, tu t'écoutes pas, c'est mort. Ouais, pour tout. C'est voilà, pour tout. Même pas que la course à pied, on pourrait donner plein d'exemples sur plein de choses. Ouais, ouais, s'écouter, c'est important de s'écouter. C'est le côté bien-être, hein, de ce que je parle dans mes coachings. Ouais. Hein. Première chose, c'est s'écouter et savoir, attends, le corps, il a besoin de quoi, là ? Là, le mois d'août, j'avais besoin de faire un peu de break de la course à pied, me ressourcer en famille. J'ai vu la famille, on a fait des travaux, j'ai pensé à autre chose, pas la course. Et, donc, ouais, voilà. Après, sur ta question, tu avais dit s'il y avait des choses qui avaient changé, enfin, que j'avais pas prévu.
Des surprises,
ouais,
tu vois.
Des surprises.
Des choses qui sont pas...
Physiquement, c'était plutôt que des bonnes surprises, parce que du coup, j'étais en forme. J'avais fait attention à partir... très lentement, du coup j'ai eu beaucoup d'énergie tout le long de la course, mis à part la mi-course où on y reviendra peut-être tout à l'heure, où j'ai dans la tête ça a presque failli basculer. Non, là où j'ai toujours des surprises, c'est au niveau de l'alimentation. En ultra, c'est toujours le problème. La plupart des abandons en ultra, c'est pas sur blessure, c'est alimentairement, ça va pas.
C'est pas 70% des abandons.
Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 70%. Ouais. Et ça, pourtant. Quand je fais mes sorties, entraînement, justement, là aussi, les week-end chocs, les semaines chocs, le but, c'est de tester un peu l'alimentation, on va dire, en conditions quasi réelles. Parce que le problème, c'est que s'alimenter sur 10, 20, 40 bornes, ça, tu peux le faire presque à l'entraînement. Mais 200 bornes, tu ne vas pas te faire un entraînement de 200 bornes pour voir si tu arrives à manger encore. Donc ça, c'est toujours un problème. Et je pense que ça s'acquiert avec l'expérience. Tu ne peux pas l'avoir comme ça. Alors, tu peux te faire aider par un nutritionniste. J'avoue que je fais pas ça parce que j'aime bien tester par moi-même et trouver mes petits trucs. Donc, au fur et à mesure, j'avance. Et du coup, parfois, il y a un truc qui marche. Je me dis, c'est bon, j'ai trouvé le bon truc. Et là, j'arrive le jour de la course. Ah ben non, j'ai pas envie de le manger, ce truc. Bon, qu'est-ce que je fais ? Bon, je vais essayer ça. Ah, ça passe pas. On va faire comme si. Du coup, ouais, c'est souvent l'alimentation, j'ai des petites surprises. C'est que je crois qu'il y a un truc qui marche bien, ça marche effectivement bien sur une, deux courses, puis la course d'après, ça marche pas, parce que s'il y a un paramètre qui change. Alors, ça peut être l'altitude, ça peut être la chaleur, ça peut être le temps de course. Ouais, voilà. Du coup...
Et t'es team sucré ou team salé ?
De plus en plus que salé. Hein. Ouais. Sucré, je trouve que ça me va bien jusqu'au marathon. Et même... marathon, je suis sûr que les prochains, je ne prendrai pas de sucre, je prendrai un truc salé au 30e. Sucré, franchement, ça met le bide en vrac. Le, le podcast a eu avec Olivier, ça m'avait fait pas mal réfléchir. Parce que du coup, lui, c'est vraiment zéro sucre pour le coup. Bah, j'ai discuté avec lui, je l'ai vu à l'UT4M d'ailleurs. Donc c'était...
Oui, parce que bah, lui, il a abandonné aussi.
Ouais, il a abandonné plus tard que moi, mais oui, on était les deux en sandales, on s'est vus au départ, ouais. C'était très cool. Mais ouais, ça m'a donné à réfléchir sur ma quantité de sucre, parce que même si j'en mangeais déjà pas beaucoup, je regardais toute la quantité de sucre que je mangeais quand même. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je mangeais encore pas mal de sucré par rapport à ce que je pourrais faire encore avec moins de sucre. Quoi. Les seuls sucres maintenant que je prends, c'est tous les 2-3 ravitaux. Alors quand je dis 2-3 ravitaux sur l'infernal, c'est au bout de 60 km. Quoi. un petit verre de coca coupé à de l'eau, mais vraiment un demi-verre. Quoi. J'ai une petite pomme pote de temps en temps, et sinon c'est un quartier d'orange. Quoi. Et ça s'arrête là au niveau sucré. D'accord. Après, c'est que salé.
Et donc salé, c'est des choses que t'emmènes ou... Parce que je suis toujours curieux, en fait, je la fais très courte, mais depuis que j'ai échangé avec Olivier, ça m'a fait pas mal réfléchir aussi, et je me dis, mais j'aimerais bien passer sur du salé, mais c'est super dur, à moins de le faire soi-même, je pense, c'est très dur de trouver, tu vois, je sais pas, des bars que tu peux emmener qui soient salés ou des trucs qui, tu vois, salés, donc on m'avait filé le tips, Sarah Vieuil, qui est une des toutes premières invitées que j'avais eues, elle emmène des pommes de terre.
Ah oui.
Ouais, cuites dans de l'eau salée. Mais bon, voilà, pommes de terre, il faut se les trimballer, c'est un peu volume et tout. Mais donc voilà, je te pose la question parce que je suis friand de tips de qu'est-ce que t'emmènes de salé avec toi.
Alors, moi, des trucs qui ont marché, alors je ne dis pas forcément cette fois-là, mais c'est des noix de cajou, des cacahuètes.
Okay.
Donc ça, c'est facile à emmener. Que tu achètes soit tout fait, là, les trucs de 100-150 grammes. Moi, je les mets dans des petits sachets transparents là, qui se ferment, et je les mets dans une ceinture, voilà, petit sac zip que je le mets dans ma ceinture de trail. Du coup, en plus, c'est facile, tu vas juste le piocher là comme ça. Je m'étais fait des petites galettes avocat Saint-Mauré. Ça passait bien certains trails. Parfois, je rajoutais un tout petit peu de beurre de cacahuète, ça c'est pour le côté gourmand.
Et donc ça c'est au ravito, tu l'as pas sur toi ça.
Je les mets dans les sacs de délestage et j'en récupère une que j'emmène, une ou deux que j'emmène avec moi. Donc oui, ça c'est des trucs que je me prépare. Ouais.
Ok.
Alors ce que j'ai testé aussi cette année, c'est des petits morceaux de pizza aussi. Alors ça c'est, j'avais de la chance d'avoir les accompagnateurs, sinon je l'ai pas en trail. Mais ouais, des petits morceaux de pizza en fait, parce qu'à un moment donné, quand la course est très longue. Peu importe, il faudrait, tu sais, on te dit, il faut que tu manges tel truc, tel truc, tel truc. À un moment donné, il faut que tu manges. Il faut que tu aies un truc dont tu aies envie. La pizza, ça passe bien. Ce que j'aime bien dans la pizza, c'est que tu as quand même pas mal de choses, ou tu as pas mal d'aliments différents que tu peux avoir dedans. Donc, c'est assez complet. Et puis, c'est vraiment le côté plaisir. Et moins tu manges quelque chose et tu... En fait, le but, c'est... Pour moi, quelqu'un qui arrive à finir déjà un ultra, c'est quelqu'un qui a réussi à avoir le système digestif qui est à peu près correct du début à la fin. En tout cas, sur du aussi long. Et du coup, si tu veux avoir le système digestif qui est à peu près bien, il faut que tu manges. Peu importe quoi, mais il faut que tu aies quelque chose que tu manges. Quoi. Donc, ouais, qu'est-ce que j'ai comme petit tips ? Les patates, effectivement, j'avais entendu, j'avais essayé des patates douces aussi. Patates douces, c'était pas mal. Ça, c'était en écoutant une interview de Mathieu Blanchard.
Il est team patate, lui ?
Ouais, patates douces, je crois qu'il a au ravito une purée de patates douces. Qui est pas mal, ouais. Voilà, sinon au ravito, là, un truc qui est bien passé, bah, pareil, un truc improbable, je pensais pas, les croque-monsieur. Ça va, t'es là, tu te dis, mais parfois. Et les croque-monsieur, je m'en suis enfilé trois d'un coup, quoi. Genre, vraiment, c'était. Là, j'avais faim, ça allait bien, voilà. Et à chaque ravito, je redemandais, il y a des croque-monsieur, des croque-monsieur. non, ouais, ça, de la soupe. La soupe, c'est ce qu'il y a de mieux, ouais. Je trouve, parce que bah, déjà, c'est le côté liquide, ça se voit bien. C'est salé, souvent tu as besoin de salé hein, pour activer tout le système. Parce que pareil, on dit aussi de beaucoup boire pendant la course, mais si tu manges pas salé, l'eau tu la bois et va dire tu la pisses tout de suite. Hein. Ça m'est déjà arrivé de boire le verre et deux minutes après je m'arrêtais et je pissais tout de suite parce que je manquais de sel, quoi. J'avais rien pour absorber cette eau. Ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, c'est plutôt ça, quoi. J'ai pas d'autres choses. Je suis sûr que je vais en tester d'autres, de toute façon. J'aurais plein d'autres trucs parce que je suis pas arrivé à un truc qui me satisfait, où je suis suffisamment satisfait. Et je suis même pas sûr que je serai toujours éternellement satisfait parce que d'une course à l'autre, les envies, elles changeront. Pareil, un des trucs que j'ai appris là, c'est que tu peux avoir un truc qui passe bien jusqu'à 12, 13, 14 heures de course, mais au bout de 30 heures, c'est un autre truc dont tu as besoin. Donc un truc qui passait très bien avant, bah là, ton corps, il n'en a pas envie. Et peut-être que une course, un truc passera très bien et l'autre, ça passera pas et tu sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc le côté adaptabilité est ultra, ultra nécessaire en ultra.
Clairement. Tu parlais de la mi-course, ou si j'ai bien compris, bah, t'as dû justement t'adapter.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement en mi-course?
Justement, genre, ça faisait quelques ravitaux où je sentais que j'arrivais pas à manger suffisamment par rapport à ce que je voulais. J'ai toujours ce problème-là. De toute façon, je pense que j'arrive pas à manger assez. J'arrivais à manger plus que d'habitude, mais quand même pas assez. Et arrivé la mi-course, donc on débute la deuxième nuit. Donc attends, je suis entre le kilomètre 100 et 120. Donc je viens juste de passer la moitié en plus. Je me dis waouh, j'attaque la deuxième nuit, c'est chaud. Et donc j'attaque la deuxième nuit, mais en fait je suis quasiment en deuxième nuit blanche parce que en fait le départ de l'Infernal, je sais plus si on en a parlé en off avant ou pas, mais le départ était à minuit. Donc en fait un départ à minuit, c'est un peu comme si on démarrait sur une nuit blanche. On a beau faire une petite sieste avant, c'est pas une nuit. Hein. Donc tu démarres sur une nuit blanche, là t'attaques la deuxième. Moi, je suis plutôt un gros dormeur de base, du coup, j'avais besoin de dormir, donc physiquement, le corps était fatigué. Et du coup, je pense qu'il y avait de ça, c'est que j'étais fatigué, donc je voulais manger, mais le corps, il avait surtout envie de dormir à ce moment-là. Donc, tout ce que je mangeais, j'avais l'impression que ça restait en haut, là, ça restait bloqué. Et ça me perturbait déjà dans ma foulée, ça me perturbait parce que j'arrivais plus à manger, que ce soit du salé, du sucré. Et puis, arrivé au milieu de cette montée là entre le 100 et le 120, je me dis en fait je vais m'arrêter sur le bas-côté, je vais dormir à même le sol sur les cailloux parce que trop fatigué. Et j'ai mis 15 minutes, montre en main, 15 minutes je dors sur le bas-côté. Alors j'avais de la chance, j'avais mon pote du coup qui avait fait cette petite portion avec moi justement en courant, donc il s'était mis un peu plus loin pour prévenir d'autres coureurs au cas où, pas qu'ils pensent que j'ai fait un malaise ou quoi, parce que j'étais vraiment mais avachi sur le bas-côté. On aurait pu croire que j'étais tombé et que voilà quoi. Mais bon, j'avais pris le soin d'enlever mes petites sandales, d'éteindre ma frontale, vraiment tout bien. J'ai jamais aussi bien dormi sur des cailloux, bref.
T'as réussi à dormir?
J'ai dormi, ouais, 15 minutes direct, pas de phase d'endormissement, nickel. Ça c'est l'avantage hein. C'était l'avantage de cette année parce qu'il faisait beau, du coup tu pouvais t'endormir sur la route. L'année dernière il avait plu comme pas possible, il fallait attendre les ravitaux, potentiellement t'es à ton cycle de sommeil qui est passé, donc t'es fatigué mais t'arrives pas à t'endormir. Là j'ai senti le cycle arriver de sommeil, pof, je me suis allongé 15 minutes et je suis reparti.
Tu t'es réveillé à la montre du coup?
Mon pote m'a réveillé du coup.
Ton pote,
mais sinon ouais, ce que j'ai déjà fait c'est ça, c'est à la montre, tu mets un petit bip et puis ça repart quoi. Du coup j'ai fait ça, je suis reparti mais j'étais encore un peu bancal, un peu faible, et arrivé en haut, du coup c'est le Drummond, donc au 120e, ça souffle pas mal là-haut parce que t'es en altitude, il y a juste une petite tente, et là pareil j'essayais de manger et ça passait pas, et c'est là où j'ai accepté, chose que j'ai énormément de mal parce que pour moi c'est des genres de mini-abandon, de redormir, et cette fois de redormir vraiment, donc j'ai dormi 1h30, 1h20 je crois.
Ah ouais.
Et je me suis dit non, de toute façon t'as du temps sur les barrières horaires, on s'en fout du chrono, le but c'est de terminer. Maintenant le but c'est même de terminer en sandales, c'est même plus de terminer là, dans ma tête c'était je sais que c'est possible, du coup voilà, donc prends bien le temps. Je me suis allongé sur les lits de camp qu'il y a sur la course. J'ai dit à ma famille qui était là du coup, réveillez-moi au bout d'une heure et demie si je suis pas réveillé. Au bout d'une heure vingt j'étais debout. Et en me réveillant, j'arrivais toujours pas à manger. Je dis que c'est pas possible. Et rien passé. En tout cas, rien de solide. Et du coup, je commande du thé. Je bois beaucoup de thé. Après, je bois beaucoup de soupe. Et en fait, je me rendais compte que j'étais un peu déshydraté. Parce que dans la nuit, t'as moins soif, tu bois moins. Et en fait, c'était ça aussi. C'est que j'étais déshydraté et j'avais besoin de me réhydrater avant de pouvoir avoir envie de digérer quelque chose. Et je pense que ça dure bien 20-30 minutes où je fais que boire du thé et de la soupe. Puis j'essaye de manger et ça passe de nouveau pas. Mais c'est pas possible. J'ai même des remontées gastriques, j'ai envie d'aller rendre quoi. Donc même à un moment donné, je sors de la tente parce que je crois que c'est parti. Bon, finalement, c'est juste un petit rototo, ça passe. Je reviens dans la tente et en fait, je me suis rendu compte que c'était le fait d'être assis et de manger en même temps. J'avais l'estomac du coup contracté et du coup j'arrivais pas à manger. Alors je me suis mis dans une position improbable, un peu la position du bébé heureux en yoga là. Tu sais, où t'as la tête vers l'avant et t'es assis ouais. sur tes pieds. Et du coup j'avais la tête vers l'avant. Et du coup, j'avais l'estomac tout droit. Et là, je me suis pris mon petit morceau de pizza et je le mangeais comme ça, la tête dans le sol. Donc voilà, tout doucement, un petit morceau, un deuxième morceau, un troisième morceau. Et là, pof, le système, il a commencé à redémarrer. Je sentis que j'arrivais à manger, manger, manger. Et puis là, bah, tu sens l'énergie qui revient, là, comme si on te venait de charger, là, tu vois, la barre du téléphone, là, qui fait tout loulouloute. C'était pareil, là. Et du coup, trop content, je repars avec le sourire et je repars pas vite encore parce que, bon, il fallait du temps encore pour tout le système, parce que là, il était encore en train de digérer, mais voilà, globalement, ça a commencé à repartir. Mais du coup, ce moment de mi-course, là, j'ai vraiment douté quand, même en prenant le temps de bien dormir, de bien prendre le temps de boire et tout, j'arrivais pas à redémarrer le système. Et que tu es au 120e, il te reste encore 80, même 88 km. Tu fais, mais en fait, finir pour finir, est-ce que ça vaut vraiment le coup dans un état comme ça? Je ne suis pas sûr. Tu vois, c'est un coup à se dégoûter vraiment de la course. J'aime bien ce côté vaillant et tout, parce que c'est pour ça que je fais ce genre de course. Mais finir au point de s'en dégoûter et d'être dans le mal, ça ne m'intéresse pas non plus. Du coup, c'est encore le côté bien-être performance. Il fallait que je fasse un pas en arrière. Prendre le temps de bien me ressourcer pour que ben, la fin de course, je la vive beaucoup mieux. Quoi. Et elle, je l'ai vécu beaucoup mieux. Parce que du coup, le ravito encore d'après, je suis encore lent parce qu'on est dans la nuit et c'était une portion particulièrement dure. Avec notamment une descente de piste noire directe. Je crois que c'est 800 mètres et tu descends 250 mètres. En termes de pourcentage, c'est...
Le régal pour les genoux.
Et voilà, tu descends à moitié sur les fesses, à quatre pattes, mais tu cours pas. Hein. Même le premier, je pense qu'il court pas. Faudrait lui demander, mais ça m'étonne. Surtout de nuit, bon, enfin bref. Donc là, c'était le temps que ça repart tranquillement. Et puis les ravitaux d'après, je sentais l'énergie qui revenait au fur et à mesure. Et au ravito, j'arrivais à manger ultra bien de nouveau. Donc le système digestif, il était reparti. Et à partir du moment où t'arrives à manger, t'arrives à boire... Après, la difficulté des jambes, c'est vraiment secondaire, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment secondaire. Parce que t'as de l'énergie qui arrive régulièrement pour pouvoir repartir. Et je suis tellement bien à la fin, tellement heureux, tellement tout est nickel que j'arrive même à sprinter à l'arrivée. Donc, ouais. J'accélère peut-être, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais parce que tu veux peut-être parler d'autres aspects de la course, mais à la fin, je suis une bombe. Je finis à 5 minutes au kilo. À 5 minutes au kilo. Je sais pas si on se rend compte de ça. C'est ça, c'est un truc de malade. Et puis j'ai pas l'impression de forcer. Je vole quoi. Je suis un avion. Ressenti, c'est 3 minutes au kilo hein, même. Là, je me souviens, je écartais les bras, genre je planais. Et
mais t'as mis une story non ou
de ouais, ouais, on te voit comme c'est ça. Écarté, ouais. Mais voilà, ça fait cette allure-là, là, je la tiens sur les deux derniers, 1,5 km à 5 minutes au kilo, heureux, quoi. Et parce que j'ai l'énergie, bon, en plus, je flotte parce que c'est ce que j'appelle l'état de flow. En prépa mental, on parle souvent de ça, de l'état de flow, c'est tu réfléchis pas, tout va bien, tout est nickel. Bah, j'ai, sur 208 km, j'ai 1,5 km d'état de flow. Mais franchement, ça vaut le coup de faire les 207 avant. Hein.
C'est ce que j'allais te demander, l'émotion. Déjà, peut-être avant ma question sur l'émotion à l'arrivée, à quel moment est-ce que tu t'es dit, OK, là, c'est sûr, je peux terminer en sandales?
Alors, l'année dernière, j'ai abandonné à Rochesson, c'était le kilomètre 160. Là, quand je le passe, je dis, c'est OK, ça va le faire. C'est encore long parce que c'est le début de la deuxième journée. Donc, je suis à plus de 36 heures de course déjà. Donc, il reste encore, mine de rien, quasi, 10 heures. Ouais, rester 10 heures, quoi. Donc là, il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer. Mais là où j'étais sûr de terminer, c'est du coup le ravito d'après à Julien Rupp. Du coup, on est au kilomètre 100... Pas que je dise pas de bêtises. 170... Entre 170 et 180. Là, je dis, c'est bon, c'est mort, c'est terminé, je finis. Et au dernier ravito, je sais même que je vais finir plus vite. Genre... Là, je sais à la fin... En fait, c'est ça aussi qui est cool... Ce que j'aime bien, en tout cas, je sais que tout le monde n'apprécie pas forcément, mais d'avoir fait le parcours une fois avant, il y en a, ils vont se dire, putain, il reste encore tout ça. Moi, je dis, oh, c'est bon, il reste ça. Et là, je savais qu'il y avait 2-3 montées de l'espace encore dans le dernier, dans la dernière portion. Alors, quand je dis montée de l'espace, c'est pas du chemin. Ils ont vraiment taillé à flanc de montagne, tout droit, direct, dans la terre. Et puis, bah, du coup, il y a déjà pas mal de coureurs qui sont passés parce que sur la fin, il y a le 200 km, il y a le 130, il y a le 100, il y a le 70 km. Donc, il commence à y avoir du monde qui sont passés. Donc, la terre, elle est remuée. Tu glisses à chaque pas et tout. Mais j'étais, en furie, quoi. Je dépassais tout le monde. C'était la folie. Mais j'étais comme un dingue sur la fin. Ouais. Comme un dingue. Donc voilà, donc
ça
ouais.
Ça va être fabuleux comme ressenti.
Ah ouais, non, c'est kiffant. Et puis tu profites de tous les instants. Même à la fin, il y a un dernier faux plat montant qui est avant la dernière descente qui est très long. Et c'est le seul moment où je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est quand que ça termine. Et à partir du moment où c'était de la descente, là, c'était parti. Donc il reste 3-4 bornes. Mais là, tu planes. T'es sur, et je parle pas, tu planes parce que t'es fatigué. Tu planes de bonheur, de tout. Et puis encore une fois, j'étais à la fois attentif à tout et à la fois complètement déconnecté. C'est ultra bizarre. C'est vraiment l'état second, cet état de flow là. En fait, l'état de flow, moi je le détermine sur l'état de confiance en soi absolu. Et l'état de confiance en soi, la définition, c'est être sûr de réussir ce que tu fais. Donc il n'y a pas de doute. Tu es sûr, tu vas réussir, c'est une certitude. Et être sûr de réussir ce que tu fais, ben, faire, c'est quoi? C'est courir. Donc voilà, t'es sûr de réussir à courir jusqu'au bout sans problème, que tout va bien passer. Et il n'y a pas de problème de « Ah, attends, je peux encore me vautrer dans la descente. Ah, je peux faire ça. » T'es attentif à tout. De toute façon, t'es rodé. Hein, ça fait 200 bornes que t'es rodé. Et t'es là, il te fait « Bon, ok, je fais attention à ça, à ça, à ça, à ça. Attends, il y a un coureur devant. Attends, je me décale à droite, je le dépasse. Et puis, c'est parti. Et puis, ah, je sais qu'il y a encore ça derrière. Ok, c'est parti, je fonce. Je peux encore accélérer. Là, c'est tout plat. Et puis là, j'entends... le micro au loin, ça te galvanise encore plus. Bref, t'es à la fois connecté à tout et déconnecté. T'es sur une autre planète. C'est assez... c'est fou comme état. Et je comprends parfaitement les sportifs de haut niveau qui le recherchent. Mais le problème, c'est que quand tu le recherches, tu l'as pas parce que t'es en quête de quelque chose. Le flow, c'est... T'y es. À un moment donné, t'y es. Et tu le constates presque après que t'y étais. Mais voilà, le chercher, c'est... T'es sûr de pas y arriver parce que t'es en quête de quelque chose, donc il peut y avoir un doute. Est-ce que j'y suis ou j'y suis pas? Tu vois, le côté être sûr, là, le côté doute. À partir du moment où tu essaies de le chercher, tu as le doute de est-ce que tu y es, est-ce que tu y es pas. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je m'en suis rendu compte après coup que j'étais dans cet état-là de folie, là. trop bien.
Voilà. Tu as eu des commentaires, que ce soit de l'organisateur ou d'autres coureurs que tu as croisés par rapport au fait que tu le fasses ensemble?
Ouais, alors, tous les coureurs, trop cool. Genre, soit que je dépassais, soit qu'il me dépassait, c'était le petit mot impressionnant et tout. Donc ouais, ça c'était cool. Puis tu discutais, il n'y avait pas de jugement, c'était... Alors il y en avait plein, ils connaissaient quand même le principe du minimalisme. Après, le sandal, c'est encore une autre étape. Ouais. Parce qu'il y en a pas mal hein, quand même qui ont démarré en five finger, du coup.
Ah ouais.
Il y en a souvent sur les ultras qui démarrent comme ça et qui finissent en chaussures plus épaisses. Okay. Donc ouais, il y a pas mal de gens, ça commence à de plus en plus se connaître, cette pratique en tout cas. Donc les coureurs, ouais, les bénévoles, ce qui était très drôle, c'est qu'ils s'appelaient d'un ravito à l'autre, du coup ils faisaient « Ah mais c'est donc vrai, il y a un gars en sandales et tout !» Donc ça c'était très rigolo. Après il y a des ravitos où ils n'avaient pas de réseau, du coup ben, eux ils découvraient là et c'était « Ouah, qu'est-ce qu'il fait ?» Mais enfin ils posaient plein de questions et j'étais très content de leur répondre parce que du coup ouais, ça fait un peu d'interaction ainsi parce que tu cours quand même globalement seul hein, pendant la course du coup ouais. Ouais, les interactions avec les bénévoles qui font toujours déjà un travail de dingue mais surtout moralement ça fait trop du bien de discuter avec des gens et là en plus qu'ils sont émerveillés de te voir arriver, ça te galvanise encore plus. Et à l'arrivée, ouais, y a mon cousin qui était quand même allé annoncer au gars du micro ouais, il y a un gars qui a fini en sandales, ce serait bien de l'interviewer. Et ouais. Après, l'Infernal n'a pas plus communiqué que ça, pour l'instant en tout cas, sur le fait que je l'ai fait en sandales. Alors, est-ce que ça va arriver quand ils vont envoyer les photos? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils n'ont pas trop envie d'en parler? C'est possible aussi, hein, parce qu'il y en a plein qui estiment que c'est très dangereux. Alors que, bon, déjà, quand tu te lances sur un ultra, c'est dangereux de base. Du coup, ouais, je peux avoir un peu du mal à comprendre ça. En fait, j'ai du mal à comprendre, en même temps, je le comprends. Parce que on connaît pas quoi. La plupart des gens connaissent pas et ils se disent faut être bien équipé pour faire ce genre de course, alors que pour moi, le meilleur équipement, c'est d'être au plus simple pour être au mieux connecté au sol sur lequel tu cours, quoi. Enfin bref, du coup, ouais. Pour répondre à ta question plus rapidement, ouais. Les coureurs, oui. Les bénévoles, oui. Même les supporters, pareil. Et l'orga, ouais, on a un petit peu parlé à l'arrivée. J'ai eu le droit à ma petite interview.
Génial. Génial. Tu dirais que c'est quoi les enseignements que tu tires de cette course ? Alors, tu le disais, c'était évidemment pas ton premier trail, c'était pas la première fois que tu courais en sandales, mais ça reste quand même une première par rapport à la distance, par rapport au dénivelé, le fait que tu l'as intégralement fait en sandales. Voilà, j'ai un peu l'impression que là, tu as accompli, c'est un gros milestone que maintenant, c'est bon, tu as ancré derrière toi. Est-ce que tu as déjà digéré l'épreuve au point de pouvoir dire voilà comment elle m'a fait grandir quelque part ?
En fait, c'est aussi quelque chose que je fais dans mes coachings, c'est que tu as une étape, mais tu as déjà les étapes d'après. En tant que cas, tu en as deux autres après pour rebondir assez vite, parce que sinon, c'est un coup à ressasser la course, dire ouais, c'était cool, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et tu te prends un peu les pieds dans le tapis. Donc oui, c'est un gros milestone de passer, que ce soit rien que l'aspect course, l'aspect sandale, c'est presque du bonus pour moi. Enfin, maintenant, ça va être intégré tout le temps. Je vais plus courir en chaussures, c'est sûr. Sauf s'il y a des courses dans la neige ou je sais pas, si un jour je me lance ça, en sandale, c'est un peu plus touchy quand même. Mais bon, hein, qui sait, hein, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est pas impossible qu'un jour je me dise ça. Bref, moi, les prochains milestones, c'est ça. Donc déjà, le côté marathon, on en a parlé, c'est de battre mes records sur marathon. Rien à voir du coup avec le trail, mais ça c'est pour un côté. J'aime bien cette alternance, faire un peu de. Parce que pour moi, un marathon c'est du rapide, hein, donc faire un peu de vitesse et rebasculer après sur une saison plus de trail. Moi, le prochain milestone en trail c'est l'ultramarin. J'ai pas encore fait tout mon programme de l'année prochaine, mais je voudrais faire l'ultramarin et faire plus de courses en Bretagne, vu que j'habite en Bretagne. J'ai fait pas mal de courses dans les Alpes cette année. Il y a quand même beaucoup de trails très sympas en Bretagne, donc je voudrais en profiter un peu. Ils sont un peu plus courts.
L'ultramarin, c'est 177, c'est ça ?
C'est ça, et c'est le tour du golfe du Morbihan. Donc par contre, c'est tout plat. C'est tout plat.
C'est tout plat, ouais. Ouais, parce que j'ai eu Julien... alors, ton épisode va sortir avant le sien, mais il y a Julien Rabier que j'ai reçu sur le podcast, et il me semble qu'on a parlé de celui-ci. Oui. Un ultra en Bretagne, tout plat, 177.
Bah, c'est ça, ouais. Donc, je suis quasi sûr que c'est ça. Et là, la spécificité par rapport à d'autres trails, c'est que du coup, tu cours tout le long, quoi. Parce que c'est tout plat, et ça va être un challenge aussi, quoi. Enfin, c'est pareil, ça va être fait en sandales, hein, évidemment. Donc ça va être le prochain milestone. Et je pense qu'il y aura un autre trail, mais je ne sais pas bien encore lequel. J'en referai un en montagne, parce que la montagne, c'est quand même très, très cool. Et surtout que le 170, là, ça va se faire en une journée, quoi. Et ce que j'ai envie de chercher de plus en plus, un peu comme tu as fait la PTL, c'est des courses plus longues encore, où tu vas y rechercher encore un peu plus dans les retranchements. J'avais vu une Bargeau qui m'intéresserait pas mal, c'est en Normandie, qui est sur plusieurs jours. J'aime beaucoup d'ailleurs ces formats de courses maintenant qui se développent. C'est sur un week-end, tu as plusieurs courses et tu as la possibilité d'en faire plusieurs et de cumuler. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en termes de récupération, il y a un autre challenge derrière. Tu ne peux pas tout envoyer la première course, sinon la deuxième, tu ne repars pas le lendemain, quoi. Et ça, je trouve ça très intéressant en termes de gestion. Globalement, moi, ce qui m'intéresse dans la course ultra, c'est la gestion. Du coup, même si je te dis l'année prochaine, je veux me réinscrire à l'Infernal 200, ce sera pas la même course parce qu'il y aura d'autres choses à gérer. Donc, et d'ailleurs, si tu démarres un ultra en me disant c'est bon, j'en ai déjà fini un, celui-là ça va être bon, t'es sûr que tu vas rater. Franchement, je pense qu'on peut se dire jusqu'aux 80 km, tu peux à peu près te dire bon, cette distance, je l'ai dans les pattes, c'est bon, je le finis. Mais vraiment, la bascule, je dirais, c'est après le 120e km. En fait, après, ça se raisonne plutôt en termes de temps, mais à partir du moment où tu es obligé de passer une nuit dehors, tout bascule, quoi. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer que en fait n'importe quelle course, il faut repartir presque à zéro, quoi. Et c'est une nouvelle aventure à chaque fois. Du coup, je referai pas l'Infernal 200 tout de suite, en tout cas, parce que c'est bon, ça s'est validé et que j'ai envie, et qu'il y a tellement d'autres courses tellement trop belles en France que voilà. Mais oui, la PTL avec mon pote Tanguy, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, ça c'est un challenge qu'on aimerait bien faire à deux. Et puis des courses ouais, plus longues en étapes, j'aimerais bien. Je trouvais... En fait, j'aimerais trop qu'un jour, il y ait un truc un peu type Tour de France, mais à trail, quoi.
Ah ouais.
Un peu bah, pareil, le Marathon des Sables, c'est un peu ça, des courses sur plusieurs jours. Parce que du coup, t'as... Ouais, c'est vraiment ce côté gestion de l'effort qui est différent. Mmh. Où tu peux avoir bah, une journée, tu as un 40 bornes, celui d'après, tu as un 70, après, tu as un 20 bornes. Et tu es obligé d'être maîtriser un peu tout et tu es obligé d'être... Ouais, de te connaître.
Un stratège aussi.
Ouais, c'est ça. C'est ce qui est beau. Ouais. Hein. C'est ce que je trouve beau d'ailleurs dans le Tour de France, plus que le reste, c'est la gestion des efforts sur les différentes journées. Quoi. Le gars qui donne tout une journée, mais que le lendemain il repart pas, bon ben. C'est dommage, quoi. non, ouais, c'est vraiment ça que je trouve beau. Donc, ouais, c'est un peu tôt encore pour définir les prochaines étapes. Je t'ai déjà donné quelques jalons, mais ça reste du court terme. Sur le long terme, ce serait la PTL avec mon pote, du coup. Et mais voilà, je sais qu'il y aura d'autres défis avant. Et pareil, peut-être pas forcément des courses officielles, mais se lancer des défis perso. Mmh. C'est encore en train de mûrir dans un coin de ma tête, mais je voudrais valider tous les GR de France, alors pas forcément en courant, mais les faire tous en sandales. Parce que voilà, j'ai. Pareil, alors par contre, un des trucs où je sais que je ferai pas, c'est les trails à l'autre bout du monde, quoi.
Par rapport à l'avion.
Par rapport à l'avion, entre autres, ouais. Ouais. Il y en a que un où je serais prêt à faire une exception, c'est la Diagonale des Fous. donc voilà, on verra. Mais en tout cas, si un jour je décide de la faire, celle-là, je compte pas l'abandonner et revenir l'année d'après pour la finir. Du coup, celle-là, je serais bien prêt. Non, sinon, ouais, c'est plutôt rester en France, en Europe, parce qu'il y a déjà tellement de belles choses à faire chez nous. Alors, effectivement, il y a des très belles courses à l'étranger, mais bon. Je fais le choix d'essayer de limiter l'avion. Mmh. Voilà.
Ou alors tu te fais un défi dans le défi et tu y vas
en courant.
Tu reviens en train.
Je crois que c'est Xavier Thévenard qui dit qu'il ne fait pas un trail s'il ne peut pas s'y rendre en vélo. Un truc comme ça.
Ouais, alors moi j'avais vu qu'il faisait, oui, qu'il prenait plus du tout l'avion, ouais. Qu'il refusait de prendre l'avion. Mais... Donc c'est bien possible.
Et ouais. Donc voilà, donc ouais, il y a plein de défis même cool à se lancer soi-même. Et autant ouais, des défis perso que des défis à faire à plusieurs. Je trouve ça trop bien aussi de pouvoir partager ces choses-là. Là, le fait de l'avoir fait, même ils sont un accompagnateur, c'était ouf de partager ça avec ma famille. Mais partager ça avec un coureur, tu vis les mêmes galères. Et puis du coup, toi, tu as potentiellement le coup de mou, ton pote, ça va super bien, puis inversement, donc bah, tu dois le mieux savoir que moi sur la PTL, et du coup, je trouve que c'est beau, et de finir ensemble comme ça, ça doit laisser des souvenirs de dingue.
Impérissable, ouais. Je te confirme.
Ouais. Et du peu que j'ai déjà accompagné des potes sur des marathons, notamment deux anciens collègues qui voulaient faire sous les 3 heures au marathon, donc c'était un gros objectif pour eux, et je les ai accompagnés toute la course, mais de voir leur sourire à l'arrivée quand ils atteignent l'objectif et que tu sais que tu as été cette petite pierre qui leur a aidé, je les ai pas fait courir, ils l'ont fait tout seul, mais le fait d'avoir partagé ça avec eux, je trouve que c'est quelque chose de très fort, hein. Et voilà. Et je pense que plus l'âge avancera, plus je ferai des trucs en duo plutôt que tout seul. Donc pour l'instant, j'essaie de faire beaucoup mes trucs, mes défis perso pour aller me pousser les limites tout seul. Et quand j'aurai trouvé des limites assez loin, bah, je peux revenir un peu en arrière et partager à venir. Mais bon, non, ça avance de pair. Mais ouais, il y a tellement de choses à faire. Je sais pas depuis combien de temps on parle des futurs objectifs, mais je pourrais faire un podcast que de ça.
On n'a pas assez d'une vie.
C'est ça.
Souvent, j'ai l'impression. Excellent. Bah écoute, fabuleux, Nico. Et si les gens veulent te suivre justement pour la suite de tes aventures, le mieux c'est Instagram.
Oui, Instagram. J'essaie de partager régulièrement, que ce soit sur mon activité de coach et sur mes trails, où à chaque fois j'essaie de mettre en parallèle du coup les deux. Hein. Pas juste suivre un coureur, mais que ça serve. Hein. d'ailleurs, je fais cette anecdote là, mais parce que je compte le refaire. Pas autant, mais j'avais fait un décompte J100 avant l'Infernal Trail. J'ai essayé de partager régulièrement ma prépa et comment les gens peuvent s'en servir. Donc ouais, je ferai pas un J-100, c'est trop long, beaucoup trop long. Mais c'était rigolo à faire. Mais je pense refaire ça, des petits suivis pour montrer comment je me prépare, et autant physiquement que mentalement. Donc ouais, sur Instagram, donc Nico Angère Coaching. Je publie aussi des vidéos un peu sur TikTok, LinkedIn, ou mon site internet, pareil, c'est toujours Nico Angère Coaching. Facebook aussi.
Okay.
Mais ouais, le meilleur endroit, je pense, c'est Instagram, c'est là où je mets tout.
Super. Voilà. Bah écoute, il y aura le lien en description.
Super.
Un grand merci Nico pour ce débrief presque à chaud, on va dire,
ouais.
De l'Infernal Trail des Vosges. Encore bravo, parce que franchement, déjà un 200 km, c'est un énorme chantier, mais alors en sandales, félicitations.
Merci
bah, du coup d'avoir finalement de l'avoir fait, parce que ça prouve qu'il y a plein de choses encore à explorer dans la course à pied, qu'on a peut-être un certain nombre de croyances qui sont plus ou moins avérées, et voilà, tu viens de prouver par l'exemple qu'on peut faire un 200 board en sandales sans se blesser en étant relativement frais à l'arrivée.
Ouais.
Bien joué pour ça.
Merci.
Et puis, bah, écoute, excellente continuation, bon défi à venir.
Yes.
Peut-être qu'on se fera un débrief de ton marathon quand tu auras explosé ton propre record.
Mais j'espère bien. Je sais pas lequel ce sera, mais oui, avec plaisir.
C'est pas Berlin qui se court super vite ?
Si, mais c'est en octobre. Non, fin septembre, je crois que c'est le week-end prochain d'ailleurs.
Ok, ouais, ça fait
donc, ouais, non, je pense que ce sera Paris, mais c'est pas sûr.
Ok.
Voilà.
Génial. Merci beaucoup, Nico.
Bah, merci à toi. Super. Allez, ciao.
Merci d'avoir écouté cette conversation avec Nicolas jusqu'au bout. J'espère que ça aura peut-être aiguisé votre curiosité et que vous tenterez la course à pied minimaliste. Renseignez-vous bien avant de le faire. C'est quand même pas anodin comme transition. Mais personnellement, je suis convaincu qu'il y a des choses intéressantes à y trouver. Cet épisode, comme d'habitude, vous est proposé gratuitement. Vous le savez, tout ce que je vous demande en retour, c'est de m'aider à donner encore plus de visibilité à mes invités exceptionnels. Et pour ça, il y a une chose très simple que vous pouvez faire, qui ne prend que quelques secondes, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Maintenant, pensez également à partager l'épisode à toutes les personnes autour de vous qui sont intéressées par le sujet de la course à pied ou du minimalisme en général. Et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Salut !